22. Cela avait certainement dû frapper Trévise lorsque Pellorat lui avait présenté ses vues personnelles sur la Terre. Mais comme il avait alors l'esprit préoccupé par son hyper-relais, il n'avait pas réagi tout de suite. Et une fois le problème réglé, voilà qu'il avait réagi. La déclaration de Harry Seldon, peut-être la plus répétée, était sa fameuse remarque sur la seconde fondation située, selon lui, à l'autre bout de la galaxie par rapport à Terminus. Et Seldon avait même baptisé l'endroit, c'était Finistelle, l'ultime étoile. Tout cela était consigné dans le récit qu'avait fait Dornick du procès devant la cour impériale. L'autre bout de la galaxie. Tels étaient les termes exacts qu'avait employés Seldon devant Dornick, et depuis ce jour, on avait cessé d'en discuter le sens. Qu'est-ce qui pouvait bien relier un bout de la galaxie avec l'autre? Une droite? Un cercle? Une spirale? Ou quoi? Et voilà. Mais c'était lumineux. Trévise se rendait soudain clairement compte que nulle ligne, nulle courbe ne devait, ne pouvait être tracée sur la carte de la galaxie. C'était bien plus subtil que ça. Il était parfaitement clair que l'un des bouts de la galaxie était Terminus, situé à la lisière de la galaxie. Oui, la lisière de notre fondation. Oui, Terminus était littéralement au fin fond de la galaxie. Seulement, c'était aussi la planète la plus récemment découverte, à l'époque où parlait Seldon. Un monde en cours de colonisation qui n'avait à ce moment-là pas encore d'existence à proprement parler. Où pouvait-on, dans cette hypothèse, situer l'autre bout de la galaxie, l'autre frontière de la fondation? Sinon, sur la plus ancienne planète de la galaxie. Et compte tenu de l'hypothèse exposée par Pellorat, sans qu'il se rendît bien compte d'ailleurs de ce qu'il exposait, il ne pouvait s'agir que de la Terre. La seconde fondation pouvait fort bien se trouver sur la Terre. Oui, mais Seldon avait également dit que cet autre bout de la galaxie était près de l'ultime étoile. Qui pouvait affirmer qu'il ne parlait pas par métaphore? Il suffisait de remonter l'histoire de l'humanité comme l'avait fait Pellorat pour que le réseau reliant chaque système planétaire, chaque étoile éclairant une planète habitée à un autre système, une autre étoile d'où étaient venus les premiers émigrants, et ainsi de suite, pour que ce réseau convergeât en fin de compte vers l'unique planète d'où était originaire l'humanité. L'ultime étoile, c'était bien celle qui éclairait la Terre. Trévise sourit et dit presque avec ferveur « Parlez-moi encore de la Terre, Janoff. » Pellorat hocha la tête. « Je vous ai dit tout ce que l'on en sait, vraiment. On en découvrira plus sur Trantor. » « Non, Janoff. On ne trouvera rien du tout là-bas. Pourquoi? Parce que nous n'allons pas à Trantor. J'ai le contrôle de ce vaisseau et je vous garantis qu'on ne va pas y aller. » Pellorat en eut le souffle coupé. Il en était bouche bée. Il se reprit lentement et dit abattu. « Oh, mon pauvre ami. » Allons, Janoff. Ne faites pas cette tête-là. On va plutôt chercher la Terre.
Mais il n'y a que sur Trantor que...
Non, sûrement pas. Trantor est simplement un endroit où l'on étudie des documents poussiéreux et de vieux films cassants jusqu'à en devenir cassant et poussiéreux soi-même.
Et moi qui rêvais depuis des années
de découvrir la Terre.
Mais c'est seulement...
Trévise se leva, se pencha, prit Pellorat par le revers de la tunique et dit « Ne me dites plus jamais ça, professeur. Ne le dites plus. » Quand vous m'avez annoncé pour la première fois qu'on s'embarquait à la recherche de la Terre, avant même qu'on soit monté sur ce vaisseau, vous m'avez raconté qu'on était sûr de la trouver. Parce que, et je cite vos propres paroles, vous aviez envisagé une excellente possibilité. Maintenant, je ne veux même plus vous entendre prononcer une seule fois le nom de Trantor. J'aimerais juste que vous me parliez un peu de cette excellente possibilité.
Mais elle a besoin d'une confirmation. Pour l'instant, ce n'est qu'une idée en l'air, un espoir, une vague possibilité.
À la bonne heure. Parlons-en.
Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez vraiment pas. C'est un domaine que personne, à part moi, n'a jamais exploré. Il n'y a rien d'historique là-dedans, rien de solide, de concret. Les gens parlent de la Terre comme si c'était un mythe. Il y a des millions de récits contradictoires. Eh bien, alors en quoi donc ont-elles bien pu consister, vos recherches ? J'ai été forcé de recueillir le moindre récit, le moindre conte, le moindre fragment d'une supposée histoire, la moindre légende, le moindre mythe fumeux, jusqu'au roman. Bref, tout ce qui pouvait évoquer le nom de la Terre ou d'une quelconque planète des origines. Depuis plus de 30 ans, je rassemble tout ce que je peux tirer de toutes les planètes de la galaxie. Maintenant, si je pouvais simplement découvrir quelque chose de plus tangible que tout cela dans la bibliothèque galactique de... Mais vous ne voulez pas entendre ce nom ?
C'est exact, ne le dites pas. Racontez-moi plutôt un de ces récits qui ont attiré votre attention. Et dites-moi quelle raison vous avez de l'estimer plus valable qu'un autre.
Pellorat hocha la tête. La Golan, pardonnez-moi l'expression, mais vous parlez comme un militaire ou un politicien. Ce n'est pas ainsi qu'on procède en histoire.
Trévise prit une profonde inspiration en essayant de garder son calme. Eh bien, dites-moi donc comment on procède, Janov. On a deux jours devant nous. Faites mon éducation.
Vous ne pouvez pas vous appuyer sur un seul mythe, ni même sur un seul groupe de mythes. J'ai dû les recueillir tous, les analyser, les organiser, élaborer des symboles pour représenter les divers aspects de leur contenu, les relations de climats impossibles, les détails astronomiques sur des systèmes planétaires différents des données connues aujourd'hui, les lieux de naissance des héros mythiques lorsqu'il est bien précisé qu'ils ne sont pas autochtones, et littéralement des centaines d'autres points. Je ne vais pas vous en asséner toute la liste. Même deux jours n'y suffiraient pas. J'y ai passé 30 ans, je vous dis. J'ai ensuite composé un programme d'ordinateur destiné à serrer les points communs à tous ces mythes, puis à rechercher une transformation qui en éliminerait les plus flagrantes impossibilités. Cela m'a permis, peu à peu, de bâtir un modèle de ce qu'avait dû être la Terre. Après tout, si tous les hommes sont originaires d'une unique planète, cette planète unique doit représenter le seul élément que doivent avoir en commun tous ces mythes fondateurs, tous ces héros culturels. Bon, vous voulez que j'entre dans les détails mathématiques ?
Non. Pas pour l'instant, merci. Mais comment êtes-vous sûr de ne pas vous être fourvoyé avec vos mathématiques ? On sait avec certitude que Terminus fut fondé il y a seulement 5 siècles et que les premiers hommes arrivèrent en colonie de Trentor, mais qu'ils provenaient de dizaines, sinon de centaines d'autres planètes. Pourtant, celui qui ignorerait ces faits pourrait fort bien supposer que Harry Seldon et Salvor Hardin, n'étant pas natifs de Terminus, sont venus de la Terre et que Trentor n'était en fait qu'une autre façon de nommer la Terre. Si l'on voulait se mettre à la recherche de la Trentor du temps de Seldon, une planète entièrement recouverte de métal, c'est sûr qu'on ne la trouverait pas et qu'on pourrait bien la considérer comme un mythe impossible.
Pellorat semblait ravi. Je retire ma remarque de tout à l'heure sur les militaires et les politiciens, mon bon. Vous avez un remarquable sens de l'intuition. Bien sûr, j'ai dû établir une méthodologie de vérification. J'ai inventé une 100aine de faux, basés sur des déformations de l'histoire réelle et imitant les mythes que j'avais rassemblés. Puis j'ai essayé d'incorporer mes inventions dans le modèle. L'une d'elles était même fondée sur l'histoire réelle des origines de Terminus. L'ordinateur les rejeta toutes. Toutes !
Certes, ça pourrait tout au plus signifier que j'étais dépourvu des talents littéraires adéquats, mais disons que j'ai fait de mon mieux.
Je n'en doute pas, Janov.
Et que vous a révélé votre modèle au sujet de la Terre ?
Quantité de choses, à des degrés divers de vraisemblance. Un genre de profil. Par exemple, à peu près 90% des planètes habitées de la galaxie ont des périodes de rotation échelonnées de 22 à 26 heures légales galactiques.
Eh bien, Trévise le coupa. J'espère que vous n'y avez pas trop prêté d'importance, Janov. Il n'y a guère de mystère là-dedans. Pour qu'une planète soit habitable, il ne faut pas qu'elle tourne trop vite pour éviter que le schéma de circulation des vents ne provoque des ouragans insoutenables, ni trop lentement non plus pour éviter des écarts de température trop extrêmes.
C'est une propriété en fait autosélective. Les hommes préfèrent vivre sur des planètes aux caractéristiques qui leur conviennent, et par la suite, quand toutes les planètes habitables se retrouvent partager les mêmes caractéristiques physiques, il se trouve quelqu'un pour remarquer quelle étrange coïncidence, alors qu'il n'y a rien d'étrange là-dedans, et que c'est tout sauf une coïncidence.
« À vrai dire, » nota tranquillement Pellerat, « c'est un phénomène bien connu dans le domaine des sciences sociales, en physique aussi, je crois, mais je ne suis pas physicien, et je ne voudrais pas m'aventurer. En tout cas, c'est ce qu'on appelle, je crois, le principe anthropique. L'observateur influe sur les événements qu'il observe, du simple fait de son observation, voire de sa présence pour les observer. Mais la question demeure. Où se trouve la planète qui a servi de modèle? Quelle planète a une période de rotation d'exactement un jour légal galactique de 24 heures légal galactique?
Trévise fit la lippe. Il paraissait songeur. Vous pensez qu'il pourrait s'agir de la Terre? Sans doute, la norme légale aurait-elle pu être basée sur les caractéristiques locales de n'importe quelle planète, vous ne croyez pas?
Peu vraisemblable. Ce n'est pas dans le style de l'espèce humaine.
Trentor a bien été capitale galactique durant 12 000 ans. 12 000 ans durant la planète la plus peuplée de l'univers, sans pour autant imposer sa période de rotation de 1,08 jours LG à toute la galaxie. Et la période de rotation de Terminus est, elle, de 0,91 JLG, sans que nous l'imposions non plus aux planètes sous notre influence.
Chaque planète utilise son système de calcul propre dans le cadre de son système de datation locale, et lorsque les rapports interplanétaires l'exigent, opère, avec l'aide d'ordinateurs, la conversion du jour planétaire local au jour légal galactique et vice-versa. Le jour légal galactique doit obligatoirement provenir de la Terre.
Pourquoi est-ce obligé?
Tout d'abord, parce que la Terre était jadis le seul monde habité. Donc tout naturellement, son jour et son année durent servir de référence et, par pesanteur sociale, durent le demeurer sans doute à mesure que d'autres planètes étaient colonisées. Ensuite, parce que le modèle que j'ai obtenu est effectivement celui d'une Terre tournant sur son axe en très exactement 24 heures légales galactiques et accomplissant une révolution autour de son Soleil en très exactement une année standard galactique. Voilà pourquoi.
Ça ne pourrait pas être une coïncidence?
Pellerat éclata de rire.
C'est vous maintenant qui me parlez de coïncidence? Seriez-vous prêt à parier qu'un tel événement puisse survenir uniquement par coïncidence?
Eh bien, ma foi, marmonna Trévise.
En fait, il y a encore un autre détail. Il existe une unité de temps archaïque qui s'appelle le moi.
J'en ai entendu parler.
Apparemment, cette unité correspond à la période de révolution du satellite de la Terre. Seulement...
Oui.
Eh bien, l'un des facteurs assez surprenants de mon modèle est que ce satellite est un astre énorme, plus du quart du diamètre de la Terre elle-même.
Jamais entendu parler d'un truc pareil, Janov.
Il n'y a pas une planète habitée de la galaxie qui soit escortée d'un tel satellite.
« Mais c'est excellent !» rétorqua Pellerat plein d'entrain. « Si la Terre est un astre unique par la diversité de ses espèces et l'évolution de l'intelligence, alors il lui faut bien quelques particularités physiques. »
« Mais quel rapport pourrait-il bien y avoir entre la présence d'un satellite géant et la diversité des espèces, l'intelligence et tout ça ?»«
Eh bien là, vous touchez effectivement du doigt une difficulté. »« Je ne le sais pas vraiment. » Mais ça vaudrait le coup d'y regarder. Vous ne trouvez pas?
Trévise se leva et croisa les bras.
Mais dans ce cas, où est le problème?
Vous n'avez qu'à consulter les tables statistiques sur les planètes habitées et en trouver une dont la période de rotation et l'orbite soient exactement et respectivement d'un jour et d'une année légaux galactiques. Et pour peu qu'elle soit dotée d'un satellite géant, vous aurez ce que vous cherchez. Je suppose, puisque vous avez envisagé une excellente possibilité, que c'est bien ce que vous avez fait et que vous avez effectivement déniché votre planète.
Pellerat parut décontenancé.
Eh bien, enfin, ce n'est pas exactement ce qui s'est produit.
J'ai certes parcouru les tables statistiques, du moins je l'ai fait faire par le service d'astronomie. Et... enfin, pour dire les choses carrément, une telle planète n'existe pas.
Trévise se rassit pesamment.
Mais alors ça veut dire que toute votre argumentation tombe à l'eau. Pas tout à fait, à mon avis.
Comment ça, pas tout à fait?
Vous me sortez un modèle truffé de descriptions détaillées, et vous ne trouvez rien qui lui corresponde. Votre modèle ne sert donc à rien dans ce cas. Il faut tout reprendre de zéro.
Non. Ça veut tout simplement dire que les données statistiques sur les planètes habitées sont incomplètes.
Après tout, il y en a des dizaines de millions. Et certaines ne sont que des mondes fort obscurs. Tenez, on manque par exemple de données sérieuses sur près de la moitié d'entre eux. Et pour 640 000 planètes habitées, nous ne disposons quasiment pas d'autres informations que leur nom et parfois leur position.
Selon certains galactographes, il pourrait y avoir jusqu'à 10 000 mondes non recensés.
Sans doute ont-ils intérêt qu'il en soit ainsi.
Durant l'ère impériale, cela aura pu les aider à échapper à l'impôt.
Et durant les siècles ultérieurs aussi bien, remarqua cyniquement Trévise, et les aider à accueillir des bases de pirates, ce qui peut se révéler à l'occasion une activité plus lucrative que le commerce.
Là-dessus, je ne saurais me prononcer, observa Pellorat dubitatif.
N'empêche. Il me semble que la Terre devrait figurer sur la liste des planètes habitées, quel que soit son désir personnel sur la question. Ne serait-ce que pour être par définition la plus ancienne de toutes, elle ne pouvait pas rester ignorée dans les premiers siècles de la civilisation galactique. Et une fois inscrite sur la liste, elle aurait dû y rester. Voilà bien un cas où l'on peut compter sur les pesanteurs sociales.
Pellorat hésita, l'air inquiet.
À vrai dire, il y a bien une planète du nom de Terre sur la liste des planètes habitées.
Trévise le considéra, ahuri.
J'avais cru comprendre il y a un instant que la Terre n'y figurait pas.
En tant que Terre, effectivement, non. Il y a toutefois une planète nommée Gaïa.
Quel rapport?
Gaïa?
Ça s'écrit G-A-I-A, ce qui veut dire Terre.
Pourquoi cela voudrait-il dire Terre plutôt qu'autre chose? Pour moi, ça n'a aucun sens.
Sur le visage d'habitude impassible de Pellorat, se dessina presque une grimace.
Je ne suis pas sûr que vous allez me croire, mais si je me fie à mon analyse des mythes, on pratiquait sur Terre plusieurs langues différentes, mutuellement inintelligibles.
Hein?
Oui.
Après tout, nous avons bien 1000 façons différentes de parler à travers la galaxie.
Dans toute la galaxie, on rencontre sans doute des variations dialectales, mais elles ne sont pas mutuellement inintelligibles. Et même s'il est parfois difficile de saisir tel ou tel dialecte, nous parlons tous le même galactique classique.
Assurément. Mais nous avons de constants échanges intersidéraux. Mais imaginez une planète demeurée isolée durant une longue période.
Seulement vous parlez de la Terre. Une planète unique. Où est l'isolation là-dedans?
La Terre est la planète des origines, ne l'oubliez pas. Et à l'époque, l'humanité devait être incroyablement primitive. Sans voyage interstellaire, sans ordinateur, sans aucune technologie, tout juste issue de ses ancêtres non humains.
Sottise que tout cela.
Pellorat hocha la tête, gêné de cette réaction.
Sans doute est-il inutile d'en discuter, mon pauvre ami. Je n'ai jamais pu convaincre personne de cela. Par ma faute, j'en suis sûr.
Trévise se sentit aussitôt désolé.
Janoff, je vous présente mes excuses. J'ai parlé sans réfléchir. Il y a des idées, après tout, auxquelles je ne suis pas accoutumé. Vous, vous travaillez sur vos théories depuis plus de 30 ans quand je viens tout juste de les découvrir. Laissez-moi un répit. Écoutez, je veux bien imaginer qu'il y ait eu sur Terre deux peuplades primitives parlant deux langages différents et mutuellement inintelligibles.
Mettons une demi-douzaine, peut-être,
hasarda Pellorat.
La Terre a pu être divisée en plusieurs grandes masses continentales, ce qui aurait empêché au début toute communication de l'une à l'autre, les populations de chaque masse continentale auraient pu alors développer chacune un langage particulier.
Trévise enchaîna avec une prudente gravité. Et dans chacune de ces grandes masses continentales, une fois que chaque population aurait fini par avoir connaissance de l'existence des autres, on aurait débattu d'une question des origines pour savoir sur quel continent les premiers hommes étaient descendus des animaux.
La chose est fort possible, Golan. C'est une attitude fort imaginable de leur part.
Et dans l'une de ces langues, Gaïa aurait signifié « terre ». Et le mot « terre » lui-même dérive d'une autre de ces langues.
Oui. Oui.
Et tandis que le galactique classique descend de cette langue bien précise, où « terre » signifie « terre », les habitants de la Terre, pour quelque raison qui leur est propre, emploient à la place le mot « Gaïa », provenant d'une autre de leur langue.
Tout juste. Vous comprenez vraiment vite, Golan.
Mais il me semble qu'il n'y a pas besoin d'en faire un tel mystère. Si Gaïa est bel et bien la Terre, malgré la différence terminologique, alors Gaïa, pour reprendre votre argumentation, devrait avoir une période de rotation d'exactement un jour légal galactique, de révolution d'une année légale galactique exactement, et posséder un satellite géant qui orbite autour d'elle en un mois tout juste.
Oui, il devrait effectivement en être ainsi.
Bon, et alors ? Répond-elle ou ne répond-elle pas à ces exigences ?
Eh bien, à vrai dire, je n'en sais trop rien. Les tableaux ne donnent pas ces informations.
Non ? Dans ce cas, Janov, faudra-t-il donc se rendre sur Gaïa pour en chronométrer les périodes et reluquer le satellite ?
J'aimerais bien, Golan.
Pellorat hésita.
Le hic ? C'est qu'on ne donne pas non plus sa position exacte.
Quoi ? Vous voulez dire que tout ce que vous avez, c'est un nom et rien d'autre ? Et vous osez appeler ça une excellente possibilité ?
Mais c'est bien pour ça que je voulais me rendre à la Bibliothèque Galactique.
Bon, attendez. Vous dites que vos tables ne donnent pas sa position exacte. Fournissent-elles une information quelconque ?
Elles la classent dans le secteur de Seychelles, en ajoutant un point d'interrogation.
Bon. Eh bien, Janov, ne faites pas cette tête-là. On va y aller dans le secteur de Seychelles. Et on finira bien par trouver Gaïa.